Prime Vert, le salon rencontre de l'altérécologie, une série d'émissions réalisées par Aura FM, la Fédération des radios associatives Auvergne-Rhône-Alpes.
Alors nous sommes ici au salon Prime Vert en 2019 et nous rencontrons Jacques Mirenovitch.
Bonjour.
Bonjour, vous vous occupez de la revue Durable et vous en êtes le co-rédacteur en chef adjoint avec Susanna Jourdan. Tous les deux, vous dirigez cette revue qui est suisse.
On se définit comme une revue franco-suisse et oui. On est une revue, disons, européenne, francophone. Et on existe depuis 2002. Donc,
oui, Susanna ça fait déjà
Jourdan,
un petit moment.
Voilà. Susanna Jourdan et moi-même l'avons fondée en 2002. Donc, on est 17 ans plus tard, toujours là. C'est une revue qui porte bien son nom, la Revue Durable.
Bah oui, oui.
Au départ, c'était une revue qui était bimestrielle, elle est devenue trimestrielle. Et maintenant, c'est une revue semestrielle. Depuis 2016, il n'y a plus que 2 numéros par an, parce que la Revue Durable est maintenant hébergée par une association qui s'appelle Artisans de la Transition et qui mène des actions de terrain en lien avec le contenu de la Revue Durable.
Alors, les Artisans de la Transition, on les trouve où ?
Les Artisans de la Transition, c'est une association de droit suisse qui a son activité principalement en Suisse romande, mais qui peut être une source d'inspiration pour d'autres associations ailleurs en Europe francophone. Je pourrais peut-être expliquer pourquoi, notamment dans la diffusion d'une méthode qui s'appelle les conversations carbone. Mais la Revue Durable elle-même, elle garde une vocation à l'échelle européenne. C'est-à-dire que les contenus sont complètement valables qu'on habite en Bretagne, dans le nord de la France ou dans le sud-ouest, ou même en Belgique, francophone.
C'est pas sur l'ensemble de la francophonie, quand il y a des choses qui se passent en Afrique, par exemple.
Dès 2002, notre parti pris, c'était de dire que les principaux responsables dans l'insoutenabilité des trajectoires de nos sociétés, oui. Les principaux responsables, évidemment, ce sont les pays industrialisés, historiquement depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, dans l'hémisphère nord et en particulier en Europe de l'Ouest. Il se passe des choses parfois extrêmement intéressantes un peu partout dans le monde, mais notre principal souci, c'est de changer toutes nos pratiques, toutes nos façons de produire, de consommer, de nous déplacer, là où on émet le plus, notamment de gaz à effet de serre, c'est-à-dire dans les pays européens industrialisés, entre autres. C'est là où on se trouve, quoi.
Je vois qu'il y a un numéro là qui fait partie de ces numéros qui se font tous les 6 mois, qui date de 2015. Comment on se libère des énergies fossiles ? Comment est-ce que sur ce sujet, comment vous avez trouvé les personnes qui ont rédigé vos articles ?
Alors peut-être que je peux répondre aussi d'une manière générale et pas uniquement
sur ce
numéro.
Oui.
Donc d'abord, la Revue Durable, elle a pour mode de fonctionnement de se concentrer dans chaque numéro
sur un sujet
en particulier qu'on va approfondir. On n'a pas une multitude d'articles qui brassent un peu tous les sujets à chaque fois, mais on se dit, tiens, ce sujet-là, on va le creuser, on va l'approfondir, on va essayer de le prendre à bras-le-corps pour bien s'en saisir. Alors qu'on est une revue généraliste. Donc, étant une revue généraliste, on va prendre tous les grands thèmes, tous les grands sujets, les uns après les autres, et on va les approfondir les uns après les autres. Et il se trouve que, comme beaucoup d'autres acteurs de la scène écologique, dans les années 2000 et au début des années 2010, on s'est un petit peu trompé, mais tout le monde s'est trompé, en nous focalisant sur l'utilisation des énergies fossiles. Il y a une énorme littérature sur comment moins conduire, se débarrasser de sa voiture, économiser dans son foyer, manger bio, local, de saison, de manière... Comment soutenir aussi l'agriculture bio, dont on sait qu'elle stocke du carbone dans les sols. Enfin, il y a énormément de choses...
Qui ont été faites.
Qui sont faites, qui sont faites encore par une minorité, qui devrait pouvoir se déployer à beaucoup plus grande échelle. Donc là, il y a effectivement un grand levier, une grande marge de manœuvre, beaucoup de choses à faire, et beaucoup de choses qui ignorent encore tout ce qu'on peut réaliser et qui est extrêmement pertinent. Par contre, ce à côté de quoi on est complètement passé à côté, comme tout le monde,
n'a pas été fait.
C'est de réaliser qu'il n'y a pas que le bout de la chaîne, l'aval de la chaîne des énergies fossiles, c'est-à-dire l'utilisation du fioul dans sa cuve à mazout ou de l'essence dans son réservoir de sa voiture, mais il y a aussi toute la partie extraction, forage, l'extraction minière du charbon, le forage de puits gaziers ou pétroliers. Les écologistes sont complètement passés à côté de la possibilité d'intervenir pour, on pourrait dire, mettre un couvercle sur l'extraction de ces énergies fossiles. Parce que le grand problème, c'est qu'une fois que cette énergie est rendue disponible, eh ben, les gens sont extrêmement incités à l'utiliser, d'autant plus qu'on ne paye absolument pas le vrai prix. On n'internalise pas les externalisés extrêmement négatifs de ces énergies. Je crois que c'est en 2012 qu'une campagne a commencé aux États-Unis, dans les campus universitaires, à l'image de la campagne du boycott des investissements en Afrique du Sud au moment de l'apartheid dans les années 60 et 70, où les étudiants ont dit « on va empêcher nos universités », donc aux États-Unis les universités sont très riches, elles ont beaucoup de fonds qu'elles investissent, « on va empêcher nos universités d'investir en Afrique du Sud ». Et là, ils ont fait exactement la même chose, ils ont dit « on va empêcher les universités d'investir dans les énergies fossiles ». Il y a une série de très grosses entreprises pétrolières, charbonnières, gazières, dans lesquelles on peut investir, dans lesquelles les investisseurs publics et privés investissent pour avoir du rendement. Ben, on va s'opposer à cette façon de faire. Et si on fait ça, on coupe en partie les vivres de cette industrie pour l'empêcher de continuer à investir dans de l'offshore profond, dans les gaz de schiste, dans les sables bitumineux, enfin tous les hydrocarbures non conventionnels, les pires, les plus polluants, les plus affreux.
Ça
a été fait aux États-Unis.
Et le raisonnement, ça vous a donné à penser.
Voilà, mais le raisonnement est extrêmement intéressant. Parce que ces universités, qu'est-ce qu'elles font ? Elles forment les jeunes. Elles forment les jeunes qui vont être adultes d'ici une dizaine ou une vingtaine d'années, qui vont de plus en plus avoir des postes à responsabilité, dans un monde qui va dépendre de notre capacité aujourd'hui à nous débarrasser des énergies fossiles pour limiter autant qu'on le peut, la catastrophe climatique, le dérèglement climatique. Donc c'est complètement paradoxal que les établissements même qui forment ces jeunes, en même temps, détruisent leur avenir en investissant dans les industries qui vont effectivement rendre le climat et l'habitabilité de la Terre impossible. Et cette campagne s'est développée de plus en plus dans le monde et on l'a relayée effectivement en 2015 dans un dossier qui explique tous les raisonnements que je viens d'esquisser à grands traits pour comprendre qu'on n'a pas seulement un levier au niveau de nos comportements en limitant notre utilisation des énergies fossiles, mais on a aussi un levier très important pour empêcher les grandes entreprises pétrolières, gazières et charbonnières de continuer leur travail, qui nous barre l'avenir en fait, qui nous empêche d'envisager sereinement l'avenir. Et bien sûr, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que ça passe, ou je l'ai en partie dit ici, ça passe par la finance, par le monde de la finance.
Oui, bien sûr.
Donc ça passe par tous les investissements publics et privés, y compris les nôtres, toute la sphère financière. Alors voilà typiquement un dossier qu'on a publié voilà, en août, septembre, octobre 2015.
Si jamais on a envie d'avoir tout ce que vous avez écrit là-dessus, vous avez des anciens numéros que vous pouvez renvoyer, on peut retrouver des éléments podcast, comment fait-on pour...
Alors le grand avantage de la Revue Durable, c'est que non seulement elle existe depuis 2002, mais chaque numéro lui-même est durable, c'est-à-dire que c'est tellement approfondi. Par exemple, les raisonnements derrière cette campagne, ils restent absolument valables. L'historique de cette campagne...
Parce que j'ai envie d'en savoir plus, moi-même,
voilà.
Sur ces questions.
Et donc ça, on le trouve complètement dans le dossier qui est... On est sur le salon Primevert qu'on peut acheter au stand de la revue, ou qu'on peut commander soit en nous appelant au téléphone, soit en nous contactant par courriel, soit en commandant directement la revue sur le site, ou en passant par une librairie. On peut aussi aller à sa librairie favorite et puis commander tel ou tel numéro de la Revue Durable.
Alors ça m'amène aussi, vous allez nous donner quelques autres exemples de ce que vous avez fait tous les 6 mois. Comment est-ce que vous diffusez votre revue, justement ? Vous avez un nombre de librairies avec lequel vous travaillez, dans le monde francophone, justement.
Au démarrage de la revue, on était diffusé en kiosque, dans tous les... Je crois qu'on était diffusé dans 5000 points de vente en France, en Belgique aussi, en Suisse, on était diffusé. Et puis, on a fait une analyse de cycle de vie, c'est-à-dire qu'on a fait un bilan écologique de notre activité, je ne sais plus en quelle année, peut-être aux alentours de 2010. Et on a vu que la chose qu'on pouvait faire pour améliorer notre bilan écologique, c'était justement de sortir de kiosque. Parce que pour vendre une revue en France, il fallait qu'on en expose 5. Et ensuite, les 4 revues non vendues partaient au pilon. Parce qu'on n'avait absolument pas les moyens financiers de financer le retour de cette marchandise, ni de la stocker. Donc on a pris la décision un petit peu héroïque de sortir de kiosque. Et je dis héroïque parce que ça nous rendait de moins en moins visibles. Mais on a quand même assumé cette décision, pensant qu'on avait commencé à être suffisamment connu, qu'on était présent par exemple sur le salon Primevert où on a une certaine visibilité, qu'on est diffusé par le réseau des librairies et qu'il y a encore certains points de vente, par exemple des Biocoop ou certaines librairies alternatives, à Lyon par exemple,
trouve.
La Griffe, où on continue de nous trouver.
Sur quoi travaillez-vous aujourd'hui là ? Quels sont les derniers
quoi. Alors, il y a un numéro qui vient tout juste de sortir. Donc là, on a travaillé pendant plusieurs mois sur l'habitat participatif, où, il faut le dire, il y a des choses absolument extraordinaires qui se passent en Suisse, à Genève et à Zurich en particulier. Mmh. Sur ce plan-là, dans ces deux cantons, dans ces deux grandes villes, il se passe des choses qui sont nettement en avance sur l'état des lieux de l'habitat participatif en France. Pour des raisons très compliquées, en France, c'est quand même beaucoup plus difficile de faire de l'habitat participatif, même si on peut tout à fait le faire, et il y a toute une série d'acteurs qui le font. Donc il y a plein de réalisations.
Alors quelle est la différence entre la Suisse et la France?
C'est des explications très techniques, mais juridiquement, en Suisse, il y a un statut de coopérative d'habitat participatif qui est très établi. C'est très simple d'en créer une, et c'est très simple, alors pas dans tous les cantons, mais par exemple dans le canton de Genève, c'est relativement simple, si on a un bon dossier,
et ça qu'on passe.
Voilà, d'obtenir ce qu'on appelle un droit de superficie pour faire son logement. Et le faire à grande échelle, hein. Pas des bâtiments avec 4 appartements, c'est beaucoup.
Et donc là, vous travaillez là-dessus, alors comment trouvez-vous justement vos rédacteurs sur ce sujet comme sur les autres?
On se définit comme une revue qui est à cheval entre le meilleur du journalisme et le meilleur du monde académique. C'est-à-dire que le meilleur du journalisme, c'est une enquête approfondie pour comprendre comment se positionnent les acteurs, comment ils s'y prennent pour faire ce qu'ils ont à faire. Et le meilleur du monde académique, c'est la même chose. C'est documenter certains sujets, les approfondir. Donc on fait un mixte un peu des deux, ce qui fait que cette revue, elle se distingue un petit peu sur ce plan-là. C'est de la vulgarisation sur tous les thèmes qui sont liés à l'écologie. Et il suffit d'avoir ces antennes en alerte pour être au courant de ce qui avance, de ce qui bouge, de ce qui est nouveau, de ce qui est innovant, de ce qui est porteur, de ce qui nous aide à aller dans la bonne direction. Donc j'ai cité par exemple la campagne de désinvestissement de l'industrie des énergies fossiles. Oui. On a mis le doigt dessus au moment où c'était émergent dans les années en 2015, et on l'a porté à la connaissance du public à ce moment-là. Et c'est un petit peu notre rôle. On est en contact avec une multiplicité d'acteurs. On en rencontre plein, par exemple sur ce salon. Et comme ça nous permet de voir quels sont les sujets.
Des prochains numéros.
Donc là, on a fait dernièrement un numéro sur la création monétaire, un numéro sur la sobriété. On trouve très peu de choses sur la sobriété. C'est un sujet qui est très tendance. Mais il y a très très peu de documentation. Donc là, on a fait un document de 40 pages sur la sobriété, ses tenants et ses aboutissants. Là, sur l'habitat participatif, en prenant appui sur ce qui se passe en Suisse. Et le prochain numéro sur lequel on veut intervenir, c'est le numérique.
Oui.
Le numérique alternatif au fameux GAFAM. Donc ces entreprises numériques qui ont en quelque sorte un petit peu pris le pouvoir dans le monde en remplaçant les grosses entreprises d'énergie fossile et en manipulant l'information à leur service. Donc là, il y a un enjeu écologique majeur en choisissant un tel sujet.
Ici, au Salon Primeur, vous ne manquez pas de personnes avec qui discuter de cet aspect numérique.
Alors,
il y a pas mal de gens qui font.
Alors là, j'ai passé tout mon samedi hier
à discuter.
À m'informer.
Oui.
Donc il y a une tente numérique pour comprendre le discours de ces gens, leur positionnement, la manière dont ils s'y prennent.
C'est important justement de voir ce lieu où se font les relations entre les uns et les autres.
Primeur est un lieu magique. Pour nous, c'est on ne vend pas beaucoup la revue, mais pour nous, c'est absolument magique d'être ici.
Vous voyez beaucoup de gens. Intéressant.
Il y a énormément de stands, de conférences, d'ateliers. C'est formidablement bien organisé en plus. Non, c'est extraordinaire.
Très bien, ben on leur dira. Vous leur dites d'ailleurs quand vous rencontrez.
Ben, c'est pour ça que je le dis maintenant.
Voilà. Merci. Eh ben, merci d'être venu. Donc si on veut connaître un peu plus la Revue Durable, donc on tape
www.larevuedurable.com.
La Revue Durable, tout attaché, .com. Eh ben, merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était le salon Primevert à Eurexpo, une série d'émissions réalisées par Aura FM, la Fédération des radios associatives Auvergne-Rhône-Alpes.